Que s'est-il donc passé derrière les murs de cette maison, apparemment comme les autres, à Noyelles-sous-Lens, dans le Pas-de-Calais? Les policiers y sont intervenus mardi et ils ont découvert l'innommable, une fratrie de plusieurs enfants, certains ligotés, affamés, baignant dans la saleté. Une situation qui dirait depuis de nombreuses années. Les parents de 40 et 44 ans ont été laissés en liberté sous contrôle judiciaire. Les toutes dernières informations, le décryptage, ce sera dans un instant avec nos invités. Mais d'abord, ce que l'on sait de cette maison de l'horreur avec Mariam Tovmazian et Emeline Darcourt.
Que se passait-il derrière les murs de cette maison familiale à Noyelles-sous-Lens où vivait un couple parent de 10 enfants? L'aîné, 24 ans, est allé trouver la police. Ces récits ont incité les forces de l'ordre à se déplacer au domicile. Mardi 30 août, ils y trouvent, d'après le site Actu Pas-de-Calais, deux enfants de 2 et 5 ans, attachés sur des chaises hautes dans leur excrément. Le site précise que les enfants subissent des violences, des fessées. Les voisins sont sidérés.
Personne n'a rien vu ici dans le coin, c'est ça.
Tellement que c'est honteux de faire des trucs comme ça à des enfants.
J'étais choquée de ça, d'apprendre, quoi, parce que ils avaient pas l'air d'être méchants comme parents, quoi, parce que ils étaient bien polis, ils voyaient à l'école, c'était bonjour.
Je sais qu'il y a un enfant, j'étais à l'école primaire avec lui, il avait l'air tout à fait normal, il allait en cours. Franchement, je pensais pas qu'il allait être maltraité.
Les proches de la famille, eux, appellent à la prudence. Leur récit du mardi 30 août est différent.
J'étais pas là le jour. Le papa avait un rendez-vous et la maman s'occupait de ses enfants. Voilà, mais elle s'occupait un par un. Elle ne peut pas s'occuper du bébé, du dernier-né et des deux autres filles. Et ce sont des enfants de bas âge qui, marchent par terre, peuvent se cogner aussi. Et la maman était en train de donner le biberon à son autre petit dernier, sa petite. Donc, elle ne pouvait pas s'occuper de tous ses enfants en même temps. C'est normal. C'est des parents qui aiment leurs enfants. Il n'y a pas eu autant de mal que ce que disent les médias.
Le père de famille s'était inscrit au registre de commerce et des sociétés comme entrepreneur individuel en commerce de détail et d'équipement automobile. D'après ses voisins, il travaillait au noir. La mère, elle, était demandeuse d'emploi. Les parents ont été laissés libres et placés sous contrôle judiciaire. Les enfants font l'objet d'un placement provisoire.
Évidemment, encore beaucoup de questions sur cette affaire, mais on va essayer d'apporter déjà les premiers éléments de réponse, de contexte sur ce dossier qui semble tellement fou avec nos invités. Maître Florence Rouas, bonjour, merci bonjour. D'être avec nous. Vous êtes avocate pénaliste. Johanna Rosenblum, bonjour, merci d'être là. Vous êtes psychologue clinicienne. D'abord, on pense aux enfants. Dans cette affaire, une dizaine d'enfants, le plus grand à 24 ans, le plus jeune 2 ans. Ils ont été placés dans des familles différentes, dans des instituts. Est-ce qu'on va pouvoir les accompagner? Est-ce qu'on va réussir, ces enfants, à les prendre en charge à la hauteur de ce qu'ils ont vécu?
Ce qu'ils ont vécu, les enfants, ça les expose à ce qu'on appelle un trauma complexe. C'est une forme de stress post-traumatique qui lie une exposition longue, durable dans le temps à des événements traumatogènes comme de la violence, des sévices et de la maltraitance. Donc oui, heureusement, les enfants vont pouvoir être aidés. Ils ne pourront pas tous être entendus parce qu'il faut être en capacité de verbaliser et pour ça, il faut avoir conscience de la souffrance que l'on a vécue. Mais ils vont pouvoir être observés, choyés, soignés pour ceux qui ont des souffrances et des maux somatiques. Et puis, on va pouvoir les faire jouer, faire des jeux avec eux pour essayer de voir s'ils arrivent à manipuler, par exemple, des petits personnages pour rejouer des scènes qu'ils vivent au quotidien et qu'ils jugent comme des scènes banales du quotidien, d'un quotidien en famille.
Par ces jeux, ils vont, et c'est ce que je pense, vont essayer les psychologues, les enquêteurs, de les faire parler, raconter. On sait encore peu de choses de leur quotidien. C'est ça l'objet, c'est qu'ils puissent aujourd'hui verbaliser tout ce qu'ils ont vécu.
Le premier objectif, c'est pour les professionnels de santé d'évaluer la gravité de la situation. D'un point de vue psychique, psychiatrique, donc en observant leur développement psychomoteur, donc c'est un travail d'observation comportementale. Et puis par la suite, il pourrait être défini l'assistance et le soin dont ils ont besoin.
Dominique, pardon, une petite question pour vous avant de vous laisser en poser une, mais vous qui avez une connaissance des affaires judiciaires depuis tellement d'années, une affaire comme ça, elle est particulièrement terrible, particulièrement sordide?
Elle est particulièrement sordide parce que c'est une famille entière, c'est une fratrie entière, c'est 10 enfants a priori, depuis le dernier qui a quelques mois seulement jusqu'au grand qui a 24 ans et qui est allé pousser la porte du commissariat. Elle est sordide parce qu'elle se passe en ville, dans un quartier, avec des voisins, avec des gens qui voyaient ses enfants entrer et sortir. Et ça aussi, c'est curieux. Pourquoi certains entraient-ils, sortaient-ils de la maison et n'allaient-ils pas signaler ce qu'il se passait ? C'est un peu aussi un secret de famille. C'est quelque chose qui est resté, que personne n'est allé livrer jusqu'à... Vous vous rendez compte ? Ce garçon, il a 24 ans. Ça veut dire que ça dure sans doute depuis qu'il est né. Il a dû être élevé comme ses frères et sœurs. Il y a eu quelques histoires en France. Il y a eu l'histoire de Gaël qu'on avait reçue dans l'affaire suivante, qui avait été séquestré en Charente-Maritime par sa mère et sa sœur pendant 3 ans. Il y a eu une histoire à Millau. C'était en 2009, dans l'Aveyron, un couple qui séquestrait leur petit garçon de 7 ans dans une chambre prison avec un verrou. Ce gamin n'avait rien, il sortait pas. Il avait un sommier par terre, un matelas et quelque chose pour un récipient pour ses besoins. Voilà. Il y a pas beaucoup d'affaires comme ça. Alors, on ne sait pas si là c'est le même degré de gravité que l'affaire de Millau dont je viens de vous parler. Non, si des enfants sortent, mais après on se pose la question aussi, quelle est la responsabilité des parents de tout ça et qu'est-ce qu'ils risquent? Qu'est-ce qu'il risque ?
Alors, ce qu'il risque... Alors, là, on est dans une prévention particulière qui est violence sur mineurs par ascendant. Mineurs de moins de 15 ans. Voilà, qui est une circonstance aggravante. Ils encourent, sur le texte pénal, en l'état des constatations, 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende. Mais ça, c'est on est en l'état des constatations. Parce que l'enquête va évoluer. Pour l'instant, il y a 2 volets. Le volet assistance éducative, c'est-à-dire le juge des enfants qui va être saisi, en fait, parce que manifestement, il y a eu une ordonnance de placement provisoire qui a été délivrée par le procureur de la République. Donc, un juge des enfants est saisi. Dans une quinzaine de jours, il va statuer. Les enfants sont placés pour les protéger immédiatement. Mais dans une quinzaine de jours, il va statuer de façon différente. Probablement qu'il maintiendra le placement pour 6 mois, pour 1 an. Il y a de fortes chances que ce soit 1 an, eu égard un peu à ce qu'on sait aujourd'hui et au contexte. Après, pendant cette année-là, sur le verset protection de l'enfance, il va y avoir, si vous voulez, des éducateurs de l'aide sociale à l'enfance qui vont suivre ces enfants, qui vont être placés dans des foyers et dans des familles d'accueil. Ça, c'est la première chose. Sur l'autre côté, c'est-à-dire l'aspect pénal, c'est-à-dire l'enquête pénale, puisque les parents ont été probablement mis en examen et placés sous contrôle judiciaire, donc remis en liberté et placés sous contrôle judiciaire. Comment l'enquête va évoluer ? Qu'est-ce qu'on va découvrir au fil des investigations ? Là est toute la question et c'est ce qui va faire évoluer les choses dans un sens ou dans un autre.
Vous rappelez la réalité qui peut peut-être choquer ceux qui nous regardent. Ces parents 40 et 44 ans sont en liberté.
Oui, mais parce que en l'état des constatations, même si pour nous ça nous choque, et c'est clair que savoir que des enfants ont été maintenus à domicile, pour l'un, il n'a même pas mis les pieds à terre, ils ont été retrouvés avec des excréments, c'est vrai que c'est extrêmement choquant et que je comprends que l'opinion publique, comme on dit, soit
les surprise. Parents, les mamans, je pense.
Oui, et tout le monde, c'est vrai qu'on se dit, mais attendez, comment c'est possible que des gens soient remis en liberté sous contrôle judiciaire alors qu'ils ont commis quand même des choses, bon, en tout cas, ils sont présumés innocents, rappelons-le, parce que même si c'est une règle qu'on rappelle et qui parfois un petit peu surannée, elle existe quand même et elle est fondamentale, parce qu'on va, au fur et à mesure, le juge d'instruction va instruire à charge et à décharge pour voir qui a fait quoi, qui a maintenu. Vous savez, quelquefois, après, derrière les apparences, les premières apparences, c'était la maison, entre guillemets, du bonheur, la petite maison, hein, avec cette famille, etc., dont on ne savait pas grand-chose. Et puis, au fil du temps, on s'aperçoit que ça devient plutôt la maison de l'horreur, comme vous l'avez intitulé. Et qu'est-ce qu'il y a derrière qui a fait quoi, de quelle manière, quelles sont les influences, jusqu'où des maltraitances, le cas échéant, quel type de sévices. Et c'est ce qui va faire évoluer la procédure et éventuellement l'information judiciaire via des investigations, voilà.
Johanna Rosenblum, ce qui est aussi fascinant dans cette affaire, c'est que personne n'est parlé, ni même les enfants. Le grand de 24 ans a donc attendu d'avoir 24 ans pour parler, ni les voisins, ni l'entourage, ni les professeurs, puisque certains allaient encore à l'école.
En ce qui concerne les enfants ne parlent pas, ils ne témoignent pas des souffrances qu'ils subissent parce qu'ils protègent leurs parents, ils veulent se faire aimer quoi qu'il arrive de leurs parents, même s'ils sont maltraités, et eux-mêmes aiment leurs parents. Ils n'ont en plus pas forcément conscience des maltraitances qu'ils subissent parce qu'ils ne voient pas comment ça se passe à l'extérieur dans les autres familles. Donc, ils peuvent prendre leur quotidien comme une norme sociale admise. Et puis, il y a tous les mécanismes de défense qu'ils mettent en place pour se protéger de ces maltraitances. être dissocié un petit peu de la situation, se couper un petit peu des affects. Et c'est pour ça qu'on voit des enfants, par exemple des enfants de 8 mois, 10 mois maltraités et qui ne pleurent pas quand ils ont faim, quand ils sont sales ou quand ils ont mal, parce qu'ils savent qu'ils n'obtiendront pas de l'aide de leurs parents. Donc ils sont le plus lisses et le plus apathiques possible pour ne pas déranger et pour ne pas recevoir de sévices. En ce qui concerne l'entourage, c'est vrai que ça pose question. Tous les professionnels de santé peuvent contacter la CRIP, c'est la cellule de recueil des informations préoccupantes. Tous les professionnels de santé ou même les professionnels qui travaillent au contact des enfants, c'est-à-dire les maîtresses, les directrices d'école, peuvent appeler la CRIP. Alors parfois, ça ne s'appelle pas la CRIP selon les départements, mais enfin bon, il y a un site internet et donc on a toutes les infos en fonction des départements. On peut appeler pour témoigner, on peut appeler pour poser des questions, parce que depuis 2007, dans le cadre de la protection de l'enfance, le secret médical est levé. Il n'y aura pas de poursuite pour un professionnel de santé de s'adresser à un autre professionnel de santé, de questionner la maltraitance. Et puis pour les enfants, les proches, l'entourage, même si c'est juste un doute, une suspicion, des questionnements, il y a le 119, c'est un numéro de téléphone qui est gratuit 7 jours sur 7. Jour et nuit, il y a quelqu'un qui décrochera et qui vous aidera. Le numéro de téléphone ne figure pas sur les relevés téléphoniques. Donc on peut être complètement anonyme et demander de l'aide.
Merci beaucoup. Merci à vous deux d'être venus nous éclairer. Évidemment, on est au début de cette affaire. On a bien compris qu'il restait beaucoup de questions à résoudre. On va suivre évidemment cette affaire tout au long des prochains jours et des prochaines semaines dans Affaires suivantes. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant avec une question assez simple, mais qui date depuis tellement longtemps. Qui a tué Christophe Douard ? C'était le 25 décembre 1995. Ce chasseur de 28 ans était retrouvé décapité dans un fossé. Le 30 juin dernier, Maria M. Savave était mise en examen pour le meurtre. 27 ans après les faits, les dessous de cet ultime rebondissement dans un instant. À 13h18, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez sur BFM TV, vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. Dans un instant, les mystères de la tuerie de Chevaline. C'était il y a 10 ans quasiment, jour pour jour, 4 personnes étaient abattues sur cette petite route de montagne, froidement abattues. 90 secondes de tuerie, 21 balles tirées. Le dossier devrait intégrer le pôle judiciaire des affaires non élucidées. Alors l'énigme Chevaline peut-elle être encore résolue ? Le récit, les témoignages des acteurs de l'époque, ce sera juste après le dossier de la semaine. Ces prochains mois permettront-ils de savoir enfin la vérité sur la mort de Christophe Douard ? Le 25 décembre 1995, son corps décapité était retrouvé dans un fossé sous des branchages en guise de tête. Une botte de chasse. 27 ans après ce meurtre d'une rare cruauté, la veuve du chasseur fait figure aujourd'hui de principale suspecte. Au début de l'été, le procureur de Cusset l'a mise en examen pour meurtre. Maria, c'est son nom, nie toute implication, mais le procureur assure que les preuves sont là. Alors que sait-on de ce dossier ? Pourquoi un tel rebondissement 27 ans après ? Tous les détails dans un instant avec nos invités, avec Dominique, mais d'abord retour sur ce triste Noël de 1995 avec Camilla Giudice.
Ce matin de Noël 1995, les sentiers autour de Bussé, un peu moins de 1000 habitants, sont enneigés. Le bourg est calme, mais au détour de sa promenade, un homme va faire la découverte qui hante la région depuis 27 ans.
Voilà, le pauvre gars était... Il avait les jambes en haut et le reste du buste au fond, là. Voilà. Il était sur le ventre. Il avait ses bottes, il y en avait une qu'il avait encore au pied et pas l'autre.
Ce corps, c'est celui de Christophe Douard, un employé des abattoirs de Vichy et chasseur amateur qui n'a plus donné signe de vie depuis une soirée chez son frère 9 jours auparavant. Le père de famille de 28 ans est décapité. Au cœur d'une mise en scène morbide, l'une de ses bottes est à la place de sa tête.
Selon le médecin légiste, la décapitation du corps avait dû être commise à l'aide d'un outil de boucherie ou de chasse ayant permis une section nette des vertèbres cervicales.
Cette analyse va d'abord orienter les enquêteurs sur la piste d'un conflit entre chasseurs, mais l'affaire piétine, deux non-lieux sont prononcés en 2000 et 2007. L'enquête reprend toutefois discrètement en 2020, tout le dossier réétudié à l'aide de techniques récentes.
Le 15 avril 2022, le corps de Christophe Douard a été exhumé aux fins de prélever son ADN et procéder à des analyses comparatives.
La veuve de Christophe Douard fait depuis figure de principale suspecte. Elle a été mise en examen pour meurtre. Son ADN a été retrouvé sur la botte de son époux et certaines de ses déclarations interrogent les enquêteurs qui recherchent à présent d'éventuels complices.
Beaucoup de questions encore en suspens dans cette affaire, mais qui est en train de bouger, comme on dit. On va essayer d'y voir clair avec nos invités. Maître Juliette Chapelle, bonjour, merci bonjour. D'être là. Vous êtes l'avocate d'Olivier Douard, vous êtes le frère de Christophe Douard. Jacques Duplessis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendant, vous suivez cette affaire, vous la connaissez parfaitement. D'abord, maître, peut-être la première question, est-ce que vous, avec votre regard, vous avez le sentiment qu'avec ce rebondissement du début de l'été, on est en train peut-être de commencer à toucher la vérité dans la mort de Christophe Douard?
En tout cas, c'est un rebondissement important, 27 ans plus tard. Il y a des éléments, c'est le procureur de la République qui le dit lui-même dans sa conférence de presse. Il y a des indices graves et concordants qui ont permis en tout cas au juge d'instruction de mettre en examen la veuve de Christophe Douard. Donc on commence peut-être, en tout cas il y a une vérité judiciaire qui est en train d'émerger.
Pardon, vous avez ce dossier ?
Oui.
D'accord, vous ne pouvez pas nous dire ce qu'il y a dedans ?
Non.
Est-ce que, jusqu'à l'exhumation du corps de Christophe Douard, il y avait une vérité dans ce dossier, ou est-ce que la vérité apparaît ou peut apparaître depuis l'exhumation du corps ? Ce n'est pas une question...
C'est pas une question piège.
Et vous ne jugez aucun secret.
Il n'y avait pas de vérité judiciaire parce que il n'y avait pas ce prémisse de vérité judiciaire parce qu'il n'y a personne qui a été mis en examen jusqu'à présent dans ce dossier. Donc c'est en 27 ans, c'est la première mise en examen. Donc ça montre déjà une chose, c'est que ce soit le procureur de la République ou les juges d'instruction qui ont été sur ce dossier au fur et à mesure, ils n'ont pas été dans l'empressement. Donc ils ne se sont pas empressés de trouver quelqu'un à mettre en examen. Donc pour moi, c'est quand même un signe que là, quand ils ont mis en examen, il y a, comme le dit le procureur, il y a des indices graves et concordants.
Si le corps avait été exhumé plus tôt, Jacques, est-ce que...
Je ne sais pas.
On aurait mis en examen cette
honnêtement, j'en sais rien, puisque je n'ai pas les documents de l'autopsie qui a été refaite. Mais par contre, il y a une hypothèse, c'est que le corps d'Olivier Douard, a priori, a été réhabillé après sa mort en tenue de chasse. Et on avait retrouvé dans la maison de Maria, donc
son épouse,
on avait retrouvé des vêtements qu'il portait quand il a été voir son frère, juste avant de disparaître.
Waouh !
Et ces vêtements ont été nettoyés, et les enquêteurs ont dit à un moment qu'il y avait du sang sur ces vêtements. Et Maria a toujours dit que non, elle avait bien lavé les vêtements, mais que ça n'était pas du sang. Et peut-être, ça c'est une hypothèse complètement gratuite, puisque moi non plus je n'ai pas accès au dossier, malheureusement, peut-être qu'aujourd'hui, les éléments, l'expertise criminelle ayant fait beaucoup de progrès, peut-être que maintenant on a pu déduire de ces vêtements qu'il y avait du sang, beaucoup de sang, peut-être même, et donc de montrer qu'en fait il serait mort à son domicile, ce qui est une des hypothèses aujourd'hui.
Ce qui est dans cette affaire aussi troublant aujourd'hui quand cette femme est principale suspecte, est-ce qu'elle a pu commettre ce crime seule ? C'est l'une des questions, parce qu'il faut quand même rappeler la scène de crime qui est quand même particulièrement horrible. On voit peut-être difficilement une femme seule faire ça. Rappelez-nous peut-être cette scène de crime et ce que vous en pensez.
Alors, donc en fait, Christophe disparaît une semaine avant Noël. Le corps est retrouvé une semaine après, donc. Et en fait, le corps est dans le fossé, comme on l'a vu au début dans le reportage, sans tête. Donc la botte, en fait, n'est pas à la place de la tête, comme ça a été beaucoup écrit, mais juste à côté. Et on ne sait pas comment il est mort. Est-ce qu'il a été tué par balle ? On sait seulement, d'après le rapport d'autopsie, c'est auquel j'ai eu accès.
On ne retrouve jamais la tête.
On ne retrouve jamais la tête. Et ce qu'on sait, c'est qu'il a été décapité après sa mort. Ça, c'est le rapport d'autopsie qui le dit. Et il y a d'autres éléments troublants, entre guillemets, qui font partie de la scène de crime, c'est que, a priori, il a été vidé de son sang comme un animal. C'est-à-dire que même dans le cœur, dans l'œil ventricule du cœur, on ne trouve pas de traces de sang. Donc il a été vidé. D'autre part, le corps est bien conservé. Et même si la température de l'époque était un peu froide, on se demande où le corps a été conservé pendant la semaine, puisque l'autopsie montre qu'il a été tué le soir même de sa disparition ou le lendemain matin tôt. On ne sait pas où a été conservé le corps pendant une semaine. Peut-être, à un moment a été dit peut-être que c'était dans une chambre froide, Ensuite, a été dit également que peut-être, ou alors en tout cas dans un lieu frais, puisque la décomposition du corps...
On est au mois de décembre, ça peut être dans le sous-sol d'une maison.
C'est là où... Voilà, non chauffé, enfin voilà.
C'est là où l'enquête qui va se poursuivre, désormais, va consister à chercher s'il y a eu des complicités.
Ça, c'est la question qui se pose maintenant. Enfin, il y a deux questions. C'est un, il faut continuer sur la personne qui a été mise en examen, donc la veuve de Christophe Douard. Et deux, de savoir est-ce que cet acte, parce qu'il y a deux scènes, il y a le crime en lui-même et il y a ensuite la mise en scène assez macabre et tout ce qui a pu se passer entre le moment où il est tué et le moment où on retrouve le corps. Et ça, c'est la question qui se pose, c'est est-ce que une personne peut faire ça seule ou est-ce que cette personne a pu bénéficier d'une ou de plusieurs complicités ? Et au-delà de la complicité, est-ce que des gens ont pu être mis au courant sans avoir participé matériellement, mais ont pu être informés de ce qui avait pu se passer ?
Est-ce que votre client, le frère de Christophe Douard, a eu des doutes par le passé sur sa belle-sœur ? S'était posé des questions ? S'était dit pourquoi pas ? Ou est-ce qu'il est tombé des nues le 30 juin dernier ?
Il est tombé des nues le 30 juin dernier en apprenant ça. Il n'a jamais eu aucun doute sur sa belle-sœur. Il l'a toujours soutenue. Il a toujours été là pour elle quand elle en avait besoin. C'était pour lui, c'était quelqu'un bon, qui s'était éloigné avec le temps, mais ça faisait encore partie. Enfin, ça fait partie de sa famille. Donc non, il est tombé des nues. Il ne s'attendait pas du tout à ce rebondissement-là.
Qu'est-ce qu'on sait de cette femme ?
Alors, ce qu'on sait de cette femme, peu de choses. On sait, bon, elle travaillait comme beaucoup de gens dans le coin, dans l'univers de la laiterie. Mais par contre, il y a quelque chose qui pourrait expliquer peut-être le crime, si c'est elle. Je dis toujours si c'est elle parce que ça reste à prouver. Il y a eu plusieurs témoignages qui ont montré qu'elle était battue. Il buvait. Et donc, si crime, si c'est elle, c'est sur fond de violence conjugale et d'alcool aussi. Et donc, ça, c'est peut-être une des explications. Ensuite, il y a une autre chose quand même qui pousse vers elle. Il y a eu un incident le soir même de sa disparition, avant qu'il aille chez son frère voir un match de foot. Il prend son bain et malencontreusement, il y a un sèche-cheveux qui tombe dans sa baignoire. Et ça disjoncte. Il s'en tire avec quelques brûlures, qu'on retrouve d'ailleurs à l'autopsie.
Et il arrive chez son frère le soir pour regarder le match de foot.
Voilà,
il arrive chez Olivier, il lui dit
« Ah, tu sais ce qui m'est arrivé, c'est incroyable, j'ai failli mourir électrocuté, ma femme a fait tomber malencontreusement son sèche-cheveux dans la baignoire. » Alors après, maintenant, la question qu'on peut se demander, c'est est-ce que c'était un accident ou est-ce que c'était une première tentative
Elle ne parle pas, Marie, elle répond à personne.
Non.
Cette femme fait figure aujourd'hui de principale suspecte. Il y a un homme qui, pendant... des années, a été considéré comme suspect alors qu'aucune charge ne pesait réellement contre lui, aucune preuve, c'est Dominique Maillet. Bonjour, merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un calvaire que vous avez vécu dans cette affaire. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un peu de soulagement pour vous ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'enfin, il y a une part de vérité, au moins vous concernant, qui est rétablie ?
Pour moi, il y a une part de vérité, mais je voudrais en savoir un peu plus. Parce que dans l'histoire, j'ai perdu un fils. Je comprends que Olivier, il ait perdu son frère, mais pour moi, c'est très dur. C'est plus dur aujourd'hui qu'avant.
Je me permets, Monsieur Maillet, puisque vous évoquez votre fils, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé avec votre fils ?
Ben, mon fils, il s'est suicidé. Suite aux dernières du mois de septembre ou début octobre, je voulais aller déposer plainte. Il m'a dit non, il y en a ras-le-bol, il y en a assez.
Parce que votre vie a été un enfer à partir de cette affaire ?
Et ben, il a changé entièrement.
Votre vie, pendant ces années, à quoi elle a ressemblé ? Alors, on a un petit problème de liaison, on vous retrouvera un petit peu plus tard. Dominique Maillet.
Son fils est suicidé au mois de janvier cette année, après que des articles ont paru dans la presse qui relançaient l'histoire et qui faisaient encore de lui, de Dominique Maillet, le suspect numéro un. Et dans le village, tout le monde l'avait surnommé Quick Quick. Quick Quick, parce que...
La propre sœur de Dominique Maillet, l'appelait le coupeur de tête.
C'est horrible.
C'est vrai, j'allais dire c'est horrible. Après, j'allais dire c'est horrible et il y a des voilà et c'est horrible si sa vie a été brisée et qu'il y est pour rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est arrivé suspect dans le dossier aussi à cause aussi de mensonges qu'il a fait, l'histoire du vol du chien, il y a rien de dramatique à voler un chien parce qu'il voulait le donner une leçon, il y avait une rivalité, des rivalités de chasseurs. Bon. Mais j'allais dire, de fait, comme l'autre personne a été assassinée, évidemment, ça prend une autre dimension.
Ça, cette histoire de chien et d'accusation.
Mais en fait,
très vite.
Christophe avait un chien extraordinaire qui s'appelait Flora et qui levait plein de gibier. Voilà. Et donc, il y avait des jalousies entre chasseurs parce que Christophe levait plus de gibier que les autres. Et il avait un chien exceptionnel. Et entre autres, Dominique Maillet était jaloux de ce chien. Et donc, il lui a pris le chien pour lui donner une leçon. Lui-même, après, finit par le reconnaître. Mais au départ, il le niait. Et c'était juste avant, puisque le chien était rendu alors que Christophe avait disparu.
Et les enquêteurs qui posent la question à Dominique Maillet, est-ce que vous avez volé le chien? Il leur répond non. Voilà. Et les enquêteurs se disent, s'il ment sur le chien, il ment peut-être sur le reste, et c'est comme ça qu'il va devenir
suspect. Puis il avait un mobile, enfin voilà, un motif.
Querelle de chasseur, c'est comme ça que la vie de Dominique Maillet, avec qui la liaison est malheureusement impossible, est devenue un enfer, mais on l'a au moins entendu et parlé de son fils, évidemment. Maître, quelle échéance maintenant dans ce dossier?
Les dossiers criminels, c'est toujours long. C'est d'autant plus long parce qu'il y a la question des complicités. Si cette question ne se posait pas, ça irait, je pense, certainement plus vite. Bon, après, c'est le temps judiciaire est toujours long, donc on serait sur 18 mois. C'est une instruction qui va se poursuivre, à mon sens, sauf si des personnes viennent à parler. Et évidemment, Olivier Edouard, lui, il appelle 27 ans après. Les personnes qui ont peut-être eu connaissance ou qui ont aidé la personne qui a commis ce meurtre à parler et à peut-être aussi soulager leur conscience, à donner une vérité sur ces faits-là. Mais il faut compter à minima 2 ans. À minima.
À minima. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau d'Affaires Suivantes.
Juste terminer en vous donnant une info exclusive. Il y a le site reflet.info avec qui je travaille, qui sort demain un premier volet d'enquête sur Altice et Patrick Drahi.
Alors, voilà, pardon, ce n'est pas du tout l'objet de cette émission. Merci d'être venu pour Affaires Suivantes.
Peut-être que vous nous
réinviterez. Vous restez avec nous. Dans un instant, on passe aux invités de la semaine. Il y a 10 ans, très exactement, la famille Al-Ili posait ses bagages, comme souvent, en Haute-Savoie. Des vacances en famille pour profiter de la montagne, du bon air et du soleil qui jouait les prolongations en cette fin d'été 2012. Des vacances qui, le 5 septembre, vont virer au drame. En 90 secondes seulement, un homme va abattre 3 des 5 membres de la famille, ainsi qu'un cycliste, un habitant de la région. Un homme qui n'a jamais été identifié. Le dossier vient d'être confié au pôle judiciaire des affaires non élucidées, avec l'espoir que la vérité puisse encore apparaître. Le récit, les témoignages dans un instant, mais d'abord, on retourne et on se replonge dans ce 5 septembre 2012 avec Camilla Judic.
Ce 5 septembre 2012, Brett Martin fait du vélo sur cette route forestière quand il aperçoit une fillette ensanglantée. Derrière elle, une voiture arrêtée, moteur encore allumé. À l'intérieur, gisent 3 membres d'une famille, des Britanniques d'origine irakienne, abattus par balle. Le père à l'avant, son épouse et sa belle-mère à l'arrière. Seule la deuxième enfant du couple est indemne, cachée sous les jambes de sa mère. À proximité, un cycliste français est mort lui aussi. En tout, 21 coups de feu ont été tirés.
Les 4 personnes ont toutes reçu au moins un coup de feu en pleine tête. Et la fillette a été véritablement battue de manière extrêmement violente avec plusieurs fractures de crâne. Donc il y avait une sauvagerie absolue, une volonté de tuer.
C'est le début d'une longue enquête entre la France et la Grande-Bretagne où la famille habitait cette maison cossue au sud de Londres.
Je ne vois pas de raison pour lesquelles une famille normale qui n'était pas engagée dans la politique ou dans quoi que ce soit d'autre devrait être assassinée.
Mais le doute plane. Cette famille était-elle la cible du tueur ou s'agissait-il du cycliste français? L'arme du crime questionne aussi les enquêteurs. Un pistolet de collection difficile à manier. L'enquête explore plusieurs pistes. Un différend au sein de la famille britannique sur fond d'histoire d'argent. Un motard est aussi entendu plusieurs fois, mais rien n'est finalement retenu contre lui. Le mystère de Chevaline reste entier. Le dossier doit être transmis au nouveau parquet dédié aux affaires non résolues.
Que de questions dans cette affaire. On va essayer d'apporter des réponses, des hypothèses, essayer d'y voir plus clair avec nos différents invités. Jean-Christophe Basson-Larbi, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocat de Pierre C, le fameux motard, un temps soupçonné. On va évidemment y revenir largement. Général Daoust, bonjour. Merci d'être avec nous. Ancien directeur de l'IRCGN. Vous avez directement travaillé sur cette affaire. Aujourd'hui, professeur de sciences criminelles à l'Université de Cergy-Pontoise. Et Jean-Alphonse Richard, bonjour. Bienvenue, bonjour. Journaliste, présentateur de l'heure du crime sur RTL. Tiens, Jean-Alphonse, il y a peu d'affaires judiciaires où il y a autant de mystères que dans l'affaire Chevalier.
Il y a peu d'affaires où il y a autant de mystères, effectivement, il faut le souligner. Puis il y a peu d'affaires où on a autant creusé les pistes. Parce que là, on pourrait dire, après tout, après toutes ces années d'enquête, on pourrait dire, l'enquête a traîné, on a oublié des trucs, on a oublié des pistes. Mais là, tout a été creusé dans le moindre des détails. On est allé en Angleterre, on est allé jusqu'en Inde pour retrouver des contacts, des commissions rogatoires internationales, des dizaines de témoins entendus, toutes les pistes explorées, la police scientifique qui s'est porté sur le sujet, rien. Donc effectivement, c'est rarissime qu'à ce point-là, et à ce niveau d'implication des enquêteurs très intense, on ne trouve rien. Ça, c'est le vrai mystère de Chevaline.
Maître, on va parler évidemment de votre client dans un instant, mais avec votre regard, c'est une affaire hors norme ?
Absolument. C'est une affaire hors norme, de par le mystère qui plane autour de cette affaire, de par aussi les dommages collatéraux qu'elle a pu connaître, avec... certains suspects qui n'ont pas eu, on va dire, la chance ou le sort du mien, qui est toujours en vie et debout, malgré la difficulté de sa situation, qui ont mis fin à leur jour, sans doute pour plusieurs raisons, mais peut-être aussi parce que la pression qui a été mise sur ces personnes dans le cadre de cette affaire, parce qu'il faut la résoudre et qu'elle est internationale aussi, fait que c'est une affaire résolument hors norme, effectivement.
Alors, Général...
Excusez-moi, Philippe. Votre client reste quand même au cœur de l'enquête.
Alors, vous avez sans doute...
C'est à lui qu'on pose toutes les questions, c'est lui qu'on soupçonne de ne pas avoir vraiment...
Peut-être, Dominique, il faut rappeler qui est Pierre C dans ce cas-là.
Comment ?
Il faut peut-être rappeler qui est Pierre C, le client de monsieur.
Oui, c'est le fameux motard, on est tellement tous dans cette affaire qu'on connaît bien, c'est le fameux motard qui va passer dans la combe, que va croiser le cycliste anglais, et qui ne s'est pas manifesté alors qu'un appel à témoins est lancé par la police avec un portrait robot de ce fameux casque GPA, ce sont des casques de moto qui s'ouvre comme ça, et il ne va pas se manifester, le voilà, merci. Et donc, depuis quelque temps, il est entendu, réentendu, on a l'impression que les gendarmes, les enquêteurs tournent autour de lui parce qu'ils le soupçonnent de ne pas tout dire ou de ne pas se souvenir de tout.
Alors, c'était vrai peut-être au mois de janvier dernier. Ouais. Non, vous n'êtes pas brutal, mais la réalité, c'est qu'à ma connaissance, et la fin de sa garde à vue, la communication du parquet suite à cette fin de garde à vue le démontre, il n'est plus en cause. Son casque était noir. Mon client ne ressemble absolument pas à ce portrait robot. Mm-hmm. Et il a été entendu un certain nombre de fois en qualité de témoin, puis placé en garde à vue, ce qui signifiait soit qu'il était, comme le prévoit le code de procédure pénale, soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre cette tuerie, ce quadruple meurtre, soit finalement qu'il fallait vérifier des hypothèses. Mais dans tous les cas, l'issue de la garde à vue démontre qu'il est décidément et définitivement, peut-être, hors de cause, même si ce dossier va connaître de nouveaux juges d'instruction spécialisés, un nouveau pôle, sans doute sera-t-il entendu de nouveau. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire qu'à ce stade, aujourd'hui, il est au cœur de l'enquête. Il l'a été, à tort, il fallait sans doute vérifier, ce qui a été fait pendant cette garde à vue. Alors, il a été extrêmement fort, on en reviendra peut-être, pendant sa garde à vue. La stratégie que nous avons adoptée a permis aussi de contribuer à le mettre peut-être, en tout cas je l'espère, je le crois, définitivement hors de cause. Mais affirmer aujourd'hui, sans brutalité, mais avec une forme de certitude comme vous le faites, qu'il est au cœur de l'enquête, c'est, je pense, caricatural. Et c'est surtout de nature à le mettre dans un état encore plus difficile que celui dans lequel...
Je fais attention, parce que quelqu'un s'est suicidé, une personne qui était soupçonnée s'est suicidée. Non, je suis prudent. Quand je dis au cœur de l'enquête, c'est quand même très vague.
En tout cas, ce n'est pas ce que lui a dit le directeur d'enquête.
Je ne dis pas c'est le suspect numéro un.
Ce n'est pas ce que lui a dit, et ça je peux en parler, parce que ce n'est pas couvert par le
fait d'avoir
vu. C'est pas ce que lui a dit le directeur d'enquête en mettant fin à la garde à vue, en lui disant « Hier, on pensait que c'était vous. Maintenant, on est sûr que ce n'est pas vous. » Et ça, j'étais présent.
Votre client, qui, on le rappelle, avait fait un baptême de deltaplane, si je ne dis pas de bêtises, et était avec sa moto et s'est donc retrouvé à proximité des lieux de cette tuerie. Et il a même rencontré deux personnes de l'Organisme national des forêts. Et c'est comme ça que le portrait robot a été fait. Ça nous ramène à cette scène. On va continuer évidemment à parler de votre client parce qu'il fait partie de cette affaire. Mm-hmm. Contre lui, on comprend bien dans ce que vous nous dites. Général, vous êtes intervenu très vite dans les premières heures avec l'IRCGN. Oui. Sur cette scène de crime. D'abord, peut-être nous parler de cette scène de crime très particulière.
C'est une scène de crime très particulière qui a été découverte par le cycliste anglais, ancien de l'armée anglaise, et qui a des premiers gestes immédiats pour voir que ce n'est pas un accident. Il casse le pare-brise, enfin, la vitre côté conducteur pour arrêter le moteur. Il fait appeler les secours. Et contrairement à ce qu'on pourrait, ce que la légende urbain de colporte, très rapidement, les secours arrivent, la gendarmerie arrive et les techniciens en identification criminelle, donc les spécialistes de scène de crime, arrivent sur place. L'IRCGN est prévenu en même temps pour envoyer des experts de certains domaines prêter main forte aux techniciens. Donc la scène est figée, mais les techniciens commencent à travailler dessus et pendant les heures du déplacement en hélicoptère, des spécialistes de l'IRCGN qui vont arriver sur place. Quand on investit enfin le véhicule, c'est là donc où plusieurs heures après va être découverte la petite fille cachée dans les jupes de sa mère. Et là, il y a eu une pseudo-polémique en disant on aurait pu la trouver tout de suite, etc. Et ça, je rappelle que plusieurs personnes étaient passées par là, y compris les médecins qui ont constaté le décès, n'ont pas décelé la petite fille. Et au-delà de ça, les enquêteurs, apprenant assez rapidement qu'il y a une seconde petite fille par le camping...
Parce que la famille logeait dans un camping.
Une caméra infrarouge sur l'hélicoptère qui va balayer toute la zone, parce que dans un premier temps, cette petite fille, elle est supposée peut-être être dans la forêt. La voiture est passée aussi par le faisceau infrarouge qui montre trois halos, parce que les corps sont encore chauds, le papa, la maman et la grand-mère. Et le halo de chaleur de la petite fille était confondu avec le halo de chaleur de la mère.
Et c'est ce qui expliquera qu'elle est retrouvée vers 23h.
Tout à fait.
Le drame a eu lieu vers 16h, si je ne dis pas de bêtises. Puisqu'on parle de la scène de crime et du lieu, on va peut-être retrouver Mathieu Hutin. Vous êtes rédacteur en chef de H2O, la radio du lac d'Annecy. Vous êtes à Chevaline. S'il y a un mystère aussi épais aussi autour de cette affaire, c'est parce que le lieu précisément où s'est passée cette affaire à Chevaline, c'est plein de sentiers forestiers, c'est plein d'endroits par lesquels quelqu'un aurait pu fuir.
Bonjour Philippe, bonjour Dominique, bonjour à tous. Effectivement, derrière moi, le début de cette combe dire, la scène du crime, elle est à 3 km d'ici, au bout d'une vallée très très encaissée, avec un chemin qui serpente autour de l'Ire. Il y a 12 ponts pour y aller, voilà, si on veut être précis. Effectivement, sur ce parking du Martinet, il n'y a que 3 possibilités d'en partir, entre guillemets, en voiture ou à pied. C'est par 3 pistes, une qui monte dans la montagne, une qui suit la vallée, une qui redescend vers le village. Sinon, après, effectivement, on peut partir dans la montagne et là, on peut y rester caché extrêmement longtemps.
Le village de Chevaline, aujourd'hui, puisque vous y êtes, il vit toujours avec le fantôme de cette affaire ?
Il vit avec le fantôme et puis il vit avec un certain agacement. C'est vrai qu'ici, on n'est pas spécialement content de voir débarquer les journalistes à chaque fois qu'ils reviennent, quand il y a une nouveauté dans cette affaire, dans la procédure. Une anecdote, vendredi matin, j'appelle la mère de Chevaline pour lui parler de toute autre chose, de son EHPAD. Et elle me dit, heureusement que vous me parlez de l'EHPAD, parce que si vous m'interrogez sur la tuerie, je ne vous aurais pas parlé parce qu'on a envie de tourner la page. C'est même pas on a envie de savoir, c'est on a envie que le nom de Chevaline soit associé à autre chose que cette tuerie ici.
Vous restez avec nous, je me tourne vers Jean-Alphonse. Il y a un homme dont on n'a pas encore parlé, c'est le cycliste qui découvre cette scène. C'est lui qui est aussi, pour le coup, au cœur de l'affaire, parce que c'est lui qui mène un peu les investigations en parlant.
Ben oui, s'il y a bien une personne, on parlait de cœur de l'affaire, qui est au cœur de l'affaire, c'est effectivement ce cycliste britannique. Alors, on l'a dit, hein, c'est un ancien militaire chevronné, il sait manier les armes. Donc ça, les premières questions, elles vont se poser aussi là-dessus. Et puis, effectivement, il est très important parce que c'est lui qui fixe le tempo de l'affaire. C'est lui qui donne les horaires. Il dit, moi, à telle heure, très précisément, j'étais sur cette route, j'ai croisé un... Il donne toutes les personnes qui étaient là probablement sur cette scène ou autour de cette scène de crime. J'ai croisé une voiture de l'Office national des forêts. Il y a une BMW couleur rouge foncé qui m'a dépassé. Donc, c'est la BMW, évidemment, break de la famille Halili. Et puis, dans Chevaline, alors, il y a un cycliste, lui, qui m'a dépassé à toute vitesse. Hein, et puis, il allait très vite. Ça rigolait pas. Il était sur un vélo de course. Voilà. Donc, je l'ai laissé passer. Moi, j'étais sur mon VTT. Effectivement, le cycliste, hein, c'est Sylvain Mollier, c'est qui va trouver la mort dans la tuerie de Chevaline. Et puis, lui, il arrive sur les lieux.
Il croise un motard.
Et il croise un motard. Donc, un seul motard sur cette piste. Ouais. Est-ce que c'est le fameux motard dont on parle dans ce dossier ou un autre motard, on n'en sait rien, mais le fait est c'est qu'il croise quelqu'un sur une grosse moto. Et puis, il arrive sur la scène de crime. Il est seul à ce moment-là. Il arrive sur ce parking et il ne comprend pas ce qui se passe. Il voit cette espèce de BMW qui est encastrée dans un talus avec le moteur tournant. Et puis là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une fillette qui surgit de nulle part, qui titube et qui finit par tomber face contre terre. C'est une des petites filles, ouais. Des filles de la famille Halili qui est tombée, qui est inerte. Il la dépose sur le parking. Et là, tout de suite, il va se retourner et il va voir le cycliste. Et il va dire, mais ce cycliste, je viens de le voir. C'est lui qui m'a dépassé. Mmh. Alors là, tout va se brouiller, évidemment. Il va redescendre parce qu'il n'y a pas de réseau à cet endroit-là. Il ne peut pas téléphoner. Donc, il va reprendre sa bicyclette, il va redescendre. Il va croiser d'ailleurs une voiture de touristes locaux qui monte en lui disant « n'allez pas plus loin parce que c'est affreux, mais il faut prévenir la police ». Et là, effectivement, ensuite, les gendarmes vont arriver très rapidement sur les lieux et très rapidement en nombre.
Et sur l'enquête ensuite, hein, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, sur l'enquête, donc, vous l'avez dit tout à l'heure, Philippe, ça dure 90 secondes, 21 balles sont tirées, il y a 4 morts. L'arme qui tire, c'est une arme tellement caractéristique. Est-ce qu'on peut retourner voir Mathieu Hutin? Cette arme, elle est tellement caractéristique, ça n'est pas une arme de tueur professionnel. Et pourtant, le procureur de la République de l'époque, Éric Maillot, va aller directement dans cette piste. Il nous le dit à nous les journalistes, c'est un tueur professionnel. Pourquoi? Parce qu'il a tiré très vite, il a tiré très bien et il a tué 4 personnes. Mais cette piste du tueur professionnel, j'aimerais savoir si le journaliste localier que vous êtes, Mathieu, vous croyez à cette piste, vous, toujours?
Non, plus maintenant. Alors, bien malin qui, à l'époque, aurait pu dire que le procureur Maillot se trompait. Toujours est-il, Dominique, et on en a longuement parlé tous les deux, vous le savez très bien, que si on est sur un tueur professionnel, le tueur professionnel aura 2 armes et que son arme principale ne sera pas, pardon, mais ce vieux clou probablement de la Seconde Guerre mondiale. Je vous rappelle quand même qu'à la fin de la tuerie, le tueur assène un coup de crosse à une des fillettes à Lélie parce que probablement il n'a plus de balles. Donc, cette thèse du meurtre commandé ou du tueur professionnel, moi je n'y crois pas du tout. Pour être tout à fait sincère avec vous, je rejoins les éléments qui ont été communiqués par une psychologue profileuse britannique et qui ont été publiés chez des confrères cet été, la piste d'un tueur local. Pas d'un coup de folie, mais... ouais, un tueur local qui voulait faire un carton. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'enquête et que les enquêteurs sont sur les dents depuis 10 ans maintenant.
C'est évidemment l'une des pistes générales. Quand on a une scène comme ça, quand vous avez travaillé, toutes les pistes ont été brassées. Il y en a même une question extrêmement simple. C'est à qui on en voulait? Est-ce qu'on en voulait à cette famille? Est-ce qu'on en voulait aux cyclistes?
Voilà, ça faisait partie de toutes les hypothèses. C'est pour ça qu'il y a des volumes entiers d'auditions, que les investigateurs, les enquêteurs sont allés en Angleterre, en Inde, ils sont même allés jusqu'aux USA parce que l'ex-mari de la femme de la victime, qui elle-même a été tuée, est mort d'une crise cardiaque le jour de la tuerie. Donc tout a été passé au crible, au tamis, et à partir de ce moment-là, toutes les hypothèses pour lesquelles, eh bien, si ce n'est pas des victimes visées, ce sont des victimes de circonstances ou d'opportunités, et là, on se reporte de nouveau sur une piste locale avec une prise de bec ou quelque chose. Mais,
Maître Basson-Larbi, est-ce que votre client sait utiliser une arme?
Absolument pas. Il n'a jamais utilisé d'arme de sa vie, pas même à la fête foraine.
Il ne sait pas utiliser une arme. Vous en êtes absolument sûr, la question lui a été posée, ça a été vérifié.
Absolument.
Comment il vit aujourd'hui votre client avec ce soupçon qui reste permanent?
Alors, quand il aura entendu, s'il entend Dominique Rizet aujourd'hui, il le vivra d'autant plus mal. Mais effectivement, c'est une personne qui est extrêmement marquée. Parce que tout simplement, quand au mois de janvier 2022, il est placé en garde à vue, c'est pas comme si vous, moi ou Dominique Rizet étions placés en garde à vue dans cette affaire. Encore que pour Dominique Rizet, ce soit peut-être pas le bon exemple. Mais
j'en suis passé pas loin de la garde.
Voilà, c'est pour ça que je me. Bon, mais c'est un homme qui, au départ, ne se manifeste pas parce qu'il n'a rien à dire, qui 2 ans plus tard est interrogé comme statut de témoin. Il est interrogé 4 fois. À chaque fois, il se rend disponible. À la suite d'une audition en sa qualité de témoin, on lui demande s'il peut accompagner les enquêteurs sur les lieux du crime. Il y va de bonne grâce. On l'invite à la mise en situation du mois de septembre 2021. Il y va de l'aube jusqu'au crépuscule.
Le problème principal, c'est de ne pas s'être manifesté plus tôt.
C'est un problème qui date d'il y a 10 ans. Il va à la mise en situation. À la mise en situation, l'anglais dit « c'est pas lui, le motard que j'ai vu ». Le procureur lui dit, ou le juge d'instruction plutôt, lui dit « normalement, vous n'entendrez plus parler de cette affaire ». Au mois de janvier, un mercredi, 8h30, des hommes en armes, il ne comprend pas ce qui se passe, et puis très vite, eh bien, tout son monde s'écroule. C'est pas quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'affaire qui est mis en garde à vue parce qu'on le suspecte. C'est quelqu'un qui a déjà tout dit et qui est placé en garde à vue, qui est le suspect numéro 1 de cette affaire à ce moment-là.
En 10 secondes chacun, est-ce que vous pensez qu'on saura la vérité ?
Je l'espère très sincèrement pour mon client et l'actualité nous montre qu'il faut garder espoir parce que la technologie permet de résoudre des affaires 20, 30 ans après.
Général, la technologie peut permettre la sortie de la vérité ?
Alors, la technologie, certainement. On a déjà l'ensemble des traces. Maintenant, il faut les relier à quelqu'un.
Oui, on saura la vérité, évidemment. Et c'est sûrement l'enquête de terrain qui donnera la vérité. Je ne suis pas sûr que ce soit l'ADN, mais l'enquête de terrain, en trouvant une personne qui était là ce jour-là.
Mathieu, on ne vous oublie pas, est-ce qu'on saura la vérité ? Mais oui, Dominique, évidemment, après Mathieu.
Pour moi, 4 hypothèses. La première.
10 secondes,
que...
hein, Mathieu.
10 secondes, Mathieu.
10 secondes, c'est oui. Ok, on va essayer. La première, c'est que on retrouve l'arme du crime chez son auteur qu'il a conservé comme un trophée. La seconde, c'est qu'il a été balancé parce qu'il s'en soit vanté. La troisième, c'est qu'il se suicide ou qu'il meurt et qu'il dise dans un testament c'était moi. La quatrième, c'est qu'on ne trouve jamais.
Vous étiez presque parfait dans les 10 secondes, vous avez retiré 5 secondes à Dominique, mais il te reste.
Et moi, j'aimerais bien rencontrer votre client et parler avec lui. Je pense pas forcément que c'est lui, mais j'aimerais bien parler avec lui.
Ben voilà, le message est passé. Comme cette affaire évidemment passionne, on vous donne rendez-vous demain 20h50 sur BFM TV, long format Ligne Rouge consacré aux 2 petites filles de cette famille. Que sont-elles devenues ? Comment vivent-elles ? Comment cette affaire a évidemment bouleversé totalement leur vie ? 20h50 à Ligne Rouge BFM TV demain. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Affaires Suivantes. Merci à vous tous d'être venus sur le plateau. À dimanche, bon dimanche. En tout cas, sur BFM TV.